Quelle grâce extraordinaire de pouvoir voir que Jésus transforme les vies encore aujourd'hui. Des fois, on entend, ah, Jésus, c'est quelque chose de dépassé, ça. C'est v'là 2000 ans. Mais croyez-moi, si l'Esprit de Christ ressuscité habite dans nos corps, il rend la vie, il place la vie, il ressuscite des rêves qui étaient morts et il transforme nos vies. C'est la beauté de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on est ici. Amen. Et amen. Hey, les ados, vous avez congé aujourd'hui. Vous êtes pognés à m'écouter. Ça va être très drôle. En fait, je sais pas si ça va être drôle. Je vous déciderai. Mais on va avoir les ados avec nous dans la salle. Et puis sinon, on va... C'est drôle, hein? C'est comme si... Le message a déjà tout été donné, hein? Par le témoignage. Mais ce matin, je veux partager justement un bref encouragement sur le livre des Proverbes. Avant d'aller là, on veut juste rappeler à chacun qui est membre de l'Église, chacun qui fait partie de l'Assemblée, on veut remercier chacun de leur générosité. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on peut accomplir, tous les enfants qu'on peut encourager dans leur foi, on le fait grâce à la générosité des uns et des autres. Et on est très reconnaissant de cela. Et puis, si vous avez besoin d'aide, justement, vous aimeriez donner, c'est possible à la table d'info d'avoir toutes les informations pour le faire. Ce matin, merci Seigneur pour les baptêmes. Merci Seigneur parce qu'il est vivant. Merci Seigneur parce qu'on peut avoir une relation avec Jésus. C'est pas juste une question de faire des choses, c'est pas juste une question de venir à l'Église. Tout est à propos de cette relation-là qu'on bâtit avec Jésus. Amen? Amen. Quand les gens disent « j'ai senti sa présence », la présence de quelqu'un, en tant que telle, théoriquement, elle nous fait pas du bien autant que lorsqu'on est en relation avec cette personne-là. Hein, on côtoie des gens, vous allez magasiner, vous allez à gauche, à droite, au resto, vous croisez toutes sortes de personnes. Mais les gens avec lesquels il y a le plus grand, la connexion, c'est des gens avec qui vous avez une relation. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Et savez-vous quoi? Pour ceux qui sont là peut-être pour une première fois, on va terminer une série de messages qui s'appelle « Perles de sagesse ». Et vous savez, ce matin, je vais parler des relations. Et peut-être que ça vous donnera des outils dans vos relations les uns avec les autres. Mais j'aimerais vous faire réfléchir sur le fait que l'amour est ressenti non pas de façon seule, individuelle ou isolée. En fait, l'amour peut se vivre en relation avec d'autres. On ressent l'amour parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous. C'est pas quelque chose qu'on est là juste tout seul dans notre coin. L'amour est une possibilité, une nécessité, une valeur à rechercher, mais il n'y a pas d'amour sans l'autre, sans quelqu'un d'autre. Et là, je parle pas juste de l'amour de couple, je parle des relations amicales, je parle même d'une relation avec Dieu. Et j'aimerais vous suggérer que dans le livre des Proverbes, Salomon, qui était une personne qui était reconnue pour son immense sagesse, avait des choses à dire là-dessus. Alors, le but de cette série-là, c'est il y a plusieurs textes qu'on va prendre du livre des Proverbes qui est dans la Bible, et je vous mets au défi de ramasser la perle de sagesse qui est pour vous ce matin. Il y aura plusieurs proverbes, plusieurs choses. Je vous encourage à prendre cette perle-là que l'Esprit fait. Hein, vous savez quand l'Esprit vous parle, et de la mettre en pratique dans vos vies. Parce que vous savez, on peut connaître tous les proverbes du monde, ça fait juste penser qu'on est intelligent. Mais quand on les met en pratique, on prouve qu'on est intelligent. Comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on grandit. C'est en mettant en pratique la parole qu'on grandit de gloire en gloire. Alors, je veux commencer par les relations amicales. Et là, vous dites peut-être, ouais, ça c'est comme le mariage pour le meilleur et pour le pire. Quand on regarde les relations les uns avec les autres, des fois on dit comme, hey, wow, c'est extraordinaire. Mais il y a des fois aussi où est-ce que c'est un peu plus catastrophique, pour toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais nous suggérer ce matin que les proverbes dans l'Ancien Testament nous révèlent un peu les fruits de l'Esprit du Nouveau. Et c'est comme si Salomon, mille quelques années avant, va nous donner des perles de sagesse afin qu'on puisse avoir des relations les uns avec les autres qui soient empreintes du fruit de l'Esprit. J'aimerais vous dire que le fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Et là, vous allez voir, quand il est marqué juste 12-18, c'est Proverbes 12-18, c'est pour alléger un petit peu le PowerPoint. Quelqu'un va dire la chose suivante. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. Une parole à la légère, aussi affûtée qu'une épée. Verset, chapitre 15 et verset 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et la douceur d'un ami vaut mieux que nos propres conseils. Intéressant, n'est-ce pas? Et la réflexion, c'est de dire, OK, on entend ça. Maintenant, on peut réfléchir. Quand je parle aux autres, à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une parole à la légère? Est-ce que c'est une parole de sagesse? Est-ce que les paroles produisent un arbre de vie ou plutôt détruisent l'arbre de vie? On réfléchit puis on se rend compte que de simples paroles ont parfois le pouvoir de guérir ou de rendre malade. Et on a cet encouragement-là par les proverbes à ce que nos paroles soient justement dans le registre de celles qui apportent la guérison. Mais la fruit de l'esprit, c'est aussi la paix et l'absence de conflit. On va prier pour notre frère ou notre sœur. Les enfants sont bienvenus ici, peu importe le ton de leur voix. OK? Et honnêtement, je veux que ce soit clair. Il n'y a pas d'enfants qui nous dérangent ici. Il n'y a pas d'enfants. J'aimerais vous dire que de voir tous les enfants qui étaient là pour les baptêmes, c'est probablement un témoignage aussi puissant. Ça aurait pu être notre 7e témoignage de baptême ce matin. Alors, je mets ça au clair tout de suite. Il n'y a pas de souci là. Laissez venir à moi les petits-enfants, c'est ce que Jésus a dit. Et ça, c'est pas négociable. Amen. OK. Amen. Ouais. On profite de l'occasion. On profite de l'occasion. Le fruit de l'esprit consiste à la paix. Et vous savez, la haine, on peut passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. La haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Intéressant. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, ne fréquente pas l'homme trop bavard. Il y en a qui font « Oh non! » La haine fait surgir des conflits. Vous savez, des fois, on est dans une société qui parfois évite les conflits à tout prix, et d'autres, c'est drôle parce que quand on est sur Internet, on se régale de voir des conflits parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. On voit ça, puis c'est comme des friandises, c'est comme des croustilles. Mais la parole de Dieu nous encourage à justement réaliser que notre cœur, de notre cœur, peuvent survenir le conflit et même l'absence de la haine dans le cœur non traité. Vous savez qu'est-ce que ça va faire? Quelqu'un qui a de la haine dans son cœur pour toutes sortes de raisons, valables ou non, ça va mener naturellement à quoi? Des conflits à gauche et à droite. C'est ce que l'Écriture nous dit. Alors que, d'un autre côté, l'amour couvre toutes les fautes. Et ça, ce qu'on voit, c'est que si l'amour est dans notre cœur, et c'est ce qu'on souhaite chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Si l'amour est dans notre cœur, ben la tendance naturelle ne sera pas de chercher le conflit, ça va être de couvrir ces fautes-là. Un autre terme qu'on aurait pu utiliser, c'est pardonner. Ouais? De ne pas retenir cette offense-là, mais de la remettre au Seigneur. Maintenant, vous dites, ouais, mais là, on peut pas couvrir toutes les fautes. Là, j'aimerais vous dire une chose. Il y a une différence entre pardonner quelqu'un et il y a une différence entre retourner voir cette même personne-là pour lui donner l'épée qui va nous transpercer une deuxième fois. Je vous donne un exemple. Il arrive une situation d'abus. Devant le Seigneur, on veut pardonner. Mais vous ne retournez pas le voir le lendemain, hein? Ça va? L'amour couvre toutes les fautes. Ça ne veut pas dire de se repitcher dans quelque chose de toxique. Ça veut dire que devant le Seigneur, je choisis de pardonner à cette personne-là parce que ça m'a blessé réellement. Et je décide que c'est Dieu qui s'occupe des conséquences de cette personne-là, pas moi. Amen? Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a une réconciliation automatique. La réconciliation nécessite quoi? Une réconciliation, ça dit deux personnes, incluant repentance. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on a cette... Et on a besoin de développer. Il y a des fois qu'on sous-estime à quel point c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que c'est de l'abondance du cœur que les conflits surgissent, que c'est de l'abondance du cœur que roulent dans notre tête toutes sortes de scénarios qui sont peut-être pas tant divins que ça. Et là, l'amour court toutes les fautes, la haine fait surgir les conflits. Soyons de ceux qui évitons pas les disputes en voulant dire « Moi, je veux pas parler à personne pour pas avoir de chicane. » Non, mais ayons un cœur rempli de cet amour-là qui va avoir le réflexe de pardonner et de non pas réanimer les conflits. Vous savez, Jésus est venu sur la croix, il est ressuscité, non pas pour qu'on ressuscite les conflits, mais pour qu'on soit pardonné et qu'on fasse de même pour les autres. Amen. Bon, c'est bon. On continue. Le fruit de l'esprit consiste à l'amour. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réponse franche est comme une embrassade. Chapitre 27, verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Hey, je reviens sur le pardon parce qu'on est là-dedans. Peut-être que c'est votre perle de sagesse. Peut-être pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Des gens qui disent « Ah, je te pardonne! » Puis à la moindre occasion, « Hey, tu te rappelles-tu de ça quand tu m'avais fait mal de même? » Dans les couples, c'est un fléau assez répandu. Que celui qui a le chapeau qui fait, il le garde. Non, c'est une joke. Non, je le connais bien. Oh, ça garde, c'est bien. Mais, est-ce que vous avez déjà perçu ça peut-être dans votre relation de couple? « Ah, je te pardonne, tout va bien. » Puis là, quand on est en chicane, « Puis tu te rappelles pas quand t'avais fait ça? » Là, c'est comme... Là, on revient 3 étages en arrière. Hein? C'est drôle que même Salomon, il y a de ça 3000 ans, puisse nous rappeler ça. C'est valide aussi dans nos relations les uns avec les autres. Le fruit de l'esprit, prochaine diapo, se développe au contact avec les autres. Et ça, pour moi, c'est ma perle de sagesse. 13-20 pour aujourd'hui. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. Quelqu'un qui a déjà dit, montre-moi tes amis, je vais te dire où est-ce que tu t'enlignes dans la vie. Je vais te dire quel va être ton futur. Parce que les gens qui nous entourent influencent notre croissance et notre trajectoire. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pour lesquelles Jésus a construit une église pour qu'on soit les uns avec les autres, pour s'encourager à grandir ensemble avec des gens qui partagent cette même foi, cette même espérance et ce même amour. Amen. Là, vous dites, ouais, mais là, dans l'église, est-ce que tout le monde est sage? Pourquoi vous riez? Je répondrai pas à cette question-là. On continue. « N'abandonne pas ton ami, ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Et là-dessus, il y en a qui disent « Ouais, ben bémol, moi je m'entends super bien mon frère et mon voisin. Si j'ai besoin de quoi, je vais aller le voir. » Fine. Mais j'aimerais peut-être juste ouvrir une parenthèse. Celle qu'il y a des gens ici qui, à cause de leur foi, la famille a pris des distances. À cause de leur foi, la famille a comme fait « Hi! » Et ce proverbe-là, je pense, est une source de réconfort. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. C'est-à-dire, bâtissons des relations les uns avec les autres. Bâtissons des relations amicales. Est-ce que ça veut dire de négliger sa famille? Non, pas du tout. Mais... est-ce que c'est important d'avoir des relations les uns avec les autres? Amen. Amen et amen. Ah, le dernier. Si vous avez lu la Bible un petit peu, c'est le genre de passage qui est le fun à dire pour les autres, mais quand c'est pour nous, c'est moins le fun. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Vous dites, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Ouais, ben, je sais pas si vous avez déjà entendu un épée s'aiguiser avec une autre épée. J'aimerais vous dire que c'est pas l'exemple parfait de la douceur. Il y a parfois le contact les uns avec les autres fait en sorte qu'on s'aiguise. On s'aiguise, oui, par la douceur, mais également, c'est à travers la reconnaissance que les autres sont pas pareils comme nous, que les autres pensent des choses différentes que nous, que finalement, ça nous aiguise dans le bon sens. Bon, donne un exemple facile. Lorsque tout le monde avait la même opinion pendant la COVID, personne s'aiguisait les uns les autres. Mais lorsqu'il y a eu des opinions différentes, ah, ça nous a étiré une petite affaire. Et comme il y avait, quand t'aiguises une épée, là, puis tout d'un coup, il y a comme une petite crevasse dedans, là, ça fait, vous comprenez? Il y en a qui aiguisent des couteaux, qui ont du fun. Moi, j'aime ça aiguiser mes couteaux. OK? Parce que j'aime ça faire du barbecue. Puis quand tu fais du barbecue, ça te prend des couteaux. C'est extraordinaire. Mais l'idée du fer aiguise le fer, l'épée aiguise l'épée, ben il y a parfois que c'est quand les autres pensent pas toujours comme nous que ça nous aiguise. D'ailleurs, si peut-être que dans votre esprit, vous dites, moi, je suis tellement béni, chaque personne autour de moi pense comme moi, j'aimerais vous dire que c'est peut-être parce que vous êtes tellement déplaisant que personne n'ose dire qu'il pense différemment que vous. Je dis ça de même. Si le chapeau te fait, tu le mets. S'il ne le fait pas, tu le mets pas. C'est correct? Peut-être que ça sera ça la perle de sagesse, peut-être pas. Non, quand même. Mais tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact avec son prochain. Ouais, j'aimerais prendre un temps pour parler un petit peu à nos couples mariés. OK? Bon, parce que Salomon, il en parle aussi, puis il y a des belles perles de sagesse pour les couples. Et il y en a un que je veux commencer. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Là, vous dites, c'est quoi le rapport avec les couples? Ben, il y a un problème si c'est pas ça. Il y a un problème si la joie n'est pas dans le couple. Et quelques passages. Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Une autre chose pour les couples qui serait bien, les paroles agréables sont un rayon de miel, elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Chapitre 18, 22, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. Proverbe 31 sur la femme vertueuse, un chapitre complet. Je prends juste un passage. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Alors, si vous êtes marié, vous n'avez pas le choix de dire amen, là, OK? Si vous voulez conserver votre joie au dîner, là, amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on est dans la vie, dans le train-train, puis on oublie qu'il peut y avoir de la joie dans le couple. Et d'ailleurs, j'aimerais vous suggérer, ou peut-être vous faire réfléchir, est-ce que vous avez du fun ensemble? Est-ce que vous êtes capable d'avoir du plaisir? Est-ce que vous êtes capable de faire des activités ensemble? Est-ce que vous êtes capable de jaser ensemble? Peut-être vous dites, ah ben justement, parle-y ou parle-elle. Je parle pas à personne, mais je parle à tout le monde. En tout cas, faites ce que vous voulez. Hein? Quand le chapeau le met, c'est votre perle de sagesse, peu importe. Mais parlez de l'amitié, du plaisir d'être ensemble. Il y a des fois, on est marié, je suis marié depuis 20 ans, quelques 20 ans. Bientôt 21, ça va vite la vie. Et parfois, avec le train-train de la vie quotidienne, on oublie qu'on a été, en premier, des gens qui avaient une amitié solide ensemble. On oublie qu'on pouvait passer des heures au téléphone à jaser dans le temps qu'il fallait appeler puis demander la permission aux beaux-parents de parler à notre amoureuse. Des choses qui ont changé depuis. Des choses qui ont changé. Mais de se rappeler qu'on a et on est appelé à avoir du plaisir l'un avec l'autre. Et que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. J'aimerais encourager tous les couples ici mariés à faire de leur époux, de leur épouse, la source de leur joie. Pas la joie qui comble tout. Ça, c'est Dieu qui fait ça, hein? Ton époux, épouse n'est pas là pour prendre la place de Dieu qui comble jusqu'au plus profond, mais de faire sa joie, absolument. Je vais encourager des couples ce matin. Et même, on passe à d'autres, la prochaine diapo. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là, je m'excuse pour les ados. Vous allez avoir du fun un matin, OK? C'est là que ça se passe. On va continuer la discussion. Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. pourquoi mon fils t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? Il n'y a pas d'amen, là? Amen! J'espère, mais! Je me permets de le dire. Là, il y a des ados qui sont gênés. Non! Mes parents font ça! Oh, catastrophe! Pourquoi est-ce que je me permets d'en parler? Je vais vous dire pourquoi. Parce que parfois, il y a certains mouvements chrétiens qui ont fait de la sexualité quelque chose de laid, de caché, quelque chose d'épouvantable qu'il ne fallait pas toucher de loin, que tout ce qui avait rapport avec ça était arc. On a tellement voulu protéger ou empêcher pour des toutes sortes de raisons puritaines qu'on a enlevé la beauté de ce que Dieu a créé. Là, maintenant, ce que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est de la sexualité à l'intérieur du cadre du mariage par deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui sont engagées dans une alliance. Amen? C'est de ça que je parle, là. Mais ça, c'est d'une beauté extraordinaire. C'est une beauté extraordinaire. Maintenant, si vous lisez le Cantique des Cantiques, vous allez remarquer que la Bible est pas très... Elle ne pèse pas ses mots. Alors, les ados, fermez vos yeux, OK? Vous êtes prêts? J'ai pas d'image, inquiétez-vous pas. Cantique 7, versets 7 à 10. « Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble aux palmiers. Et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ton palais comme un vin excellent. » Amen! Là, il y a certaines femmes qui disent, là, quel type de palmier qui parle? C'est un petit palmier ou un gros palmier? Pas en tout. OK. Je vous ramène, c'est drôle. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. Et moi, je veux encourager nos couples mariés à ne pas négliger que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et qui se transmet à travers un amour qui est passionné, un amour qui est dans la salle à coucher quand les ados dorment. Ah, bon, non, vous pouvez faire ça autrement, en tout cas. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une des raisons pour lesquelles l'idée de toute la sexualité a été mise de côté, c'est que des fois, on oublie que la sexualité, c'est corps, âme et esprit. Notre société a fait des ravages au sexe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il en a fait juste le corps. Comme si le corps était détaché de tout le reste. Mais l'Écriture et le christianisme est d'une beauté remarquable. Parce que dans tous ces écrits, ils vont toujours faire du corps, âme, esprit ensemble la base du couple et la base de tout le reste. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai dit, puis que j'ai partagé des proverbes sur l'idée d'avoir du plaisir ensemble? Parce que corps, âme et esprit, c'est pas juste dans la chambre à coucher. Corps, âme, esprit, c'est est-ce que tu es capable d'avoir une vie sociale avec ton amoureux? Est-ce que tu es capable d'avoir une discussion intellectuelle? Est-ce que tu es capable d'avoir des loisirs? Est-ce que tu as une connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle? Et tout ça mis ensemble fait en sorte que c'est extraordinaire. Mais vouloir juste le corps, c'est bien ordinaire. Pourquoi? Parce que c'est tout ça ensemble qui forme ce qui est magnifique. Je ferme la parenthèse, tous les ados disent... Ah non, ils voulaient m'entendre parler encore. Des relations de couple qui portent la vie. Qui portent la vie. Et moi, je veux encourager les couples ici à être des couples porteurs de vie à travers la sagesse de Salomon. Amen. Ah, mais là, est-ce que la relation de couple est la chose la plus importante au monde? Oui, oui, oui. Non. Qu'en est-il d'une relation avec Dieu? Une relation avec Dieu qui est porteuse de vie. Parce que vous savez quoi, on l'a même entendu dans un témoignage. C'est comme si cette relation de couple-là, et je pensais qu'elle me comblait, mais finalement, non. Finalement, c'était pas suffisant. Puis vous savez quoi? Il n'y aura jamais de relation de couple marié qui sera suffisante pour combler tous les besoins de votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'uniquement Dieu peut faire ça. Est-ce que ça veut dire que les couples, il n'y a pas des besoins, il n'y a pas des choses qu'on peut répondre? C'est pas ce que je dis. Mais si on met le fardeau à notre épouse ou à notre époux de combler uniquement ce que Dieu peut combler, on lui met un fardeau qui ne fera pas du bien à personne. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Fait que le livre des Proverbes nous parle aussi d'une relation avec Dieu qui est porteuse de fruits. Et on lit dans le passage, et là j'essaie d'être... dans le passage de Proverbes 3, versets 5 à 6. Et ça, c'est une perle de sagesse pour quiconque veut marcher avec Dieu. Ça veut dire « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » La manière de se confier à l'Éternel est importante. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. » Wow! Ça, c'est extraordinaire, ce passage-là. Parce que Dieu nous appelle à le rechercher, à se confier, à s'appuyer sur lui de tout notre cœur. Il va même dire, « Hey, si tu arrêtais de t'appuyer sur juste ce que tu penses, puis que tu regardais dans le bouquin voir la sagesse qui est là, ça pourrait te faire du bien. » Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Comment est-ce qu'on peut reconnaître Dieu dans toutes tes voies, dans toutes ses voies? C'est une bonne question. Il y a des fois, on a l'impression que Dieu est comme un grand-papa ou une grand-maman. Il arrive dans les événements importants, il est présent dans les événements importants, mais le reste du temps, ben, il est à la maison chez eux. On a l'impression que Dieu agit une fois de temps en temps, puis le reste du temps, il s'efface, il n'est pas là. On l'entend pas, on le voit pas. Mais au contraire, j'aimerais vous soumettre l'idée que Dieu est beaucoup plus présent que vous pouvez l'imaginer. Et notre rôle, c'est de se confier, c'est de s'appuyer sur lui, mais également de voir dans telle situation, Seigneur, t'es où? Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire dans cette situation-là? Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Hey, je suis dans une épreuve épouvantable, Seigneur. Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre ici, là? En quoi est-ce que j'ai besoin de m'appuyer sur ton intelligence et non pas la mienne? Reconnais-le dans toutes tes voies. Il rendra tes sentiers droits. Intéressant. Chapitre 9, verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Je ne mépriserai pas les tests de QI ce matin, mais j'aimerais vous dire la chose suivante. Si vous connaissez le Dieu vivant, vous êtes plus intelligent que bien du monde. C'est le proverbe qui le dit, hein? C'est pas moi. La connaissance du Dieu vivant, voilà en quoi consiste l'intelligence. Et j'aimerais vous dire en quoi vous êtes intelligent. Vous avez reconnu que l'univers dans lequel nous nous trouvons, il est impossible que cela se soit créé par hasard. Il est impossible que toutes ces belles choses dont nous pouvons profiter soient l'œuvre du cosmos dans sa plus simple expression. Vous avez eu l'intelligence également de reconnaître à travers le naturel des saisons, les choses qui sont ordonnées de façon si puissante qu'il y avait une invitation de voir Dieu qui nous lançait un appel. Regarde vers le ciel, quelque chose de plus grand que toi. Il y a également cette intelligence de reconnaître qu'à l'intérieur de soi, il y a un trou en forme de Dieu. Il y a cette partie que finalement, on peut essayer de combler à gauche, à droite, mais le morceau du casse-tête, il ne fit jamais jusqu'au moment où est-ce qu'on découvre Jésus qui est la source de la vie. L'intelligence consiste à continuer d'espérer dans celui qui nous a créés parfaitement. Amen. Alors, j'enlève pas les QI, je fais pas ça. Je fais juste m'appuyer sur ce proverbe-là pour dire qu'il y a une intelligence qui compte au bout de la ligne. Vous savez, votre QI pourrait vous amener à un emploi, à de la recherche, à des endroits à gauche, à droite. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'intelligence de connaître Dieu nous amène au ciel pour l'éternité. C'est quand même pas pire. Tu peux avoir tous les diplômes de la terre. Tu peux les présenter devant Dieu. Mais ce que Dieu recherche comme diplôme, c'est « Est-ce que tu me connais? Est-ce que je te connais? » Et vous savez quoi? C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Amen? On continue. Chapitre 16 et verset 9. « Le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » On l'a chanté tantôt, chapitre 18. « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, soit par vidéo, ou quelqu'un a déjà fait ça avec vous. Le test de la confiance à l'aveugle. Tu sais, quelqu'un qui fait ça puis qui il se laisse tomber d'un bras de l'autre sans... Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez déjà vu ça? Il y en a qui ont déjà vu ça ou faut que je l'explique plus? Ou levez votre main si vous avez déjà vu ça, le test de confiance. OK. Je le ferai pas, OK? On mettra pas ça sur vidéo en plus. Là. Mais il y a cette idée-là, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. C'est comme si l'image, c'est Jésus, celui qui te catch, là, celui qui t'attrape. Là. Le juste s'y réfugie, se trouve en sécurité. Est-ce que vous seriez capable de juste dire, là, faites pas ça chez vous, là, genre en disant, je vais me pitcher en arrière puis il va y avoir un ange qui va me repogner. C'est pas ça le point. Je parle dans votre esprit, dans votre cœur. Est-ce que vous seriez capable de faire ce geste-là parce que vous avez pleinement confiance que celui qui vous a créé va continuer de vous accompagner jusqu'au bout? Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Celui qui s'appuie, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. Amen. Peut-être une perle de sagesse que quelqu'un saisit ce matin. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre ce matin. Chapitre 28. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Chapitre 2, versets 6 à 11. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits, les femmes droites aussi. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège ainsi les sentiers de l'équité et il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture dans toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Amen. Amen. Quelle belle parole. Et quand on se rend compte que la sagesse et l'intelligence, c'est de connaître Dieu, ben quand on lit tout ça, la sagesse viendra dans ton cœur. La connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te protégera. On ne parle pas ici juste d'une intelligence parce que vous avez fait des trivia quiz sur Internet, des jeux questionnaires de connaissances générales, non. C'est cette connaissance du Dieu qui nous a créés. Et cette sagesse-là, vous savez quoi? Elle n'est pas disponible pour les grands de ce monde, mais elle est disponible pour ceux qui s'approchent de la croix, pour ceux qui s'approchent de Dieu, pour ceux qui reconnaissent que, hey, si c'était juste de moi, je ne mérite pas grand-chose. Mais à cause de Jésus, j'ai cette grâce-là qui mène à son cœur, à lui. Et je peux développer une relation avec Dieu. Non pas une relation avec un grand-papa qui vient d'un événement important, mais avec un Dieu qui nous accompagne à chaque jour, à chaque moment, à chaque épreuve comme à chaque joie, dans les moments banals de la vie comme dans les moments critiques, dans les moments ordinaires, dans les moments à l'église, dans les moments à la maison, jusque dans la chambre à coucher, si vous voulez même. Dieu nous accompagne en toutes choses. Il est avec nous. Dieu avec nous. Et ce matin, ce chemin de la sagesse-là nous amène à dire, quelle est la voie que je veux emprunter? Quelle est la trajectoire de ma vie? Hein, on a réfléchi à ça tantôt. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec des gens stupides va finir par faire ces choses-là. Et à quelque part, il y a dans même ces témoignages qu'on a entendus, cette idée d'une trajectoire de vie, cette idée de si je continue comme ça maintenant, où est-ce que je m'enligne? Où est-ce que j'aligne ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Et à quelque part, cette décision-là, cette prise de conscience-là, elle est là. Des fois, elle est là quand on est tout seul. Des fois, elle est là quand on est en groupe. Des fois, elle est là quand quelqu'un discute avec nous. Il y a des fois où est-ce qu'on voit les accomplissements de quelqu'un puis on est jaloux parce qu'on aimerait avoir cette même trajectoire-là. Mais j'aimerais vous encourager ce matin. L'intelligence, c'est de connaître le Dieu vivant. C'est d'avoir la connaissance du Dieu vivant. Et on l'a vu tantôt, le nom de l'Éternel est comme une tour fortifiée. Et cette invitation-là, il y a cet appel. à croire que Dieu existe et qu'il est présent ce matin, qu'il est présent même dans un temps comme celui-ci. Alors vous dites, c'est normal, c'est la maison du Seigneur. C'est pas le bâtiment qui renferme Jésus. C'est chacun des cœurs de tous ceux qui sont ici, parce que Dieu habite littéralement dans le cœur de tous ceux qui croient. C'est pas un endroit magique ici. Non, c'est un endroit qui est rempli de personnes qui ont Dieu à l'intérieur d'eux. On vient de le lire, hein? Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais celui qui les avoue, celui qui les place devant Dieu, trouve la vie. Il va obtenir compassion. Celui qui les reconnaît, il obtient compassion. Celui qui les abandonne. Et il y a dans cette trajectoire-là de vouloir vivre une vie avec Dieu, où est-ce que d'un, on a besoin de croire qu'il existe, croire qu'il est présent, croire qu'il est là. Mais dans deuxième temps, également croire que si on veut suivre une nouvelle trajectoire, ben il faut aussi suivre une nouvelle voie. Il n'y a rien de plus fou que d'essayer de faire les mêmes choses en espérant un résultat différent. Vous avez déjà entendu ça? Il n'y a rien de plus fou que ça. Mais Dieu, c'est ça. Dieu, quand il nous demande de s'approcher de lui, il ne fait pas juste dire, « Ah, ben ajoute un petit peu de sel à ton steak ou ajoute un petit peu de ci à ça. » Non, il nous demande de se détourner, de changer de trajectoire. Il va dire, hey, « est-ce que tu reconnais qu'avec tous tes efforts et toutes les choses que tu as essayées, là, le cœur n'est pas comblé pantoute. C'est toi ce matin, j'aimerais dire qu'il y a une trajectoire différente que celle que le monde peut offrir. » Et on l'a entendu dans les témoignages. Et finalement, cet appel-là n'est pas juste un appel à se détourner de nos péchés ou de nos voies, mais c'est également de prendre un nouveau sentier, celui de se confier en l'Éternel, celui de placer notre confiance en lui, celui de le reconnaître dans toutes nos voies. Et ça se fait pratiquement en donnant le contrôle de nos vies à Dieu. Le test de confiance. Donner le contrôle de nos vies à Dieu. Peut-être vous dites, comment est-ce qu'on fait ça? C'est-tu tough? Ben, il y a des moments où est-ce que oui, c'est difficile. Il y a des moments où est-ce qu'on a l'impression de tomber dans le vide. Puis oui, c'est tough. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a des moments où est-ce que, puis on l'a entendu dans les témoignages, il y a des moments où est-ce que c'est vraiment tough, que tu as l'impression de faire du bungee, pas d'élastique. Mais tu te rends compte que Dieu te rattrape. Et savez-vous quoi? Il ne faillit jamais de nous rattraper. Qu'on soit stressé, qu'on ait peur, qu'on soit pas capable de faire le test de confiance, peu importe. Il est fidèle et ça ne change jamais. Et ça ne changera jamais. Il est fidèle d'éternité en éternité. Est-ce qu'on peut courber la tête ce matin? Fermer nos yeux dans ce lieu. Et peut-être que certaines personnes ici, il y a des perles de sagesse qui ont saisi à travers leur relation. Mais peut-être qu'il y en a certains qui sont jaloux ou disent, c'est quoi ça une relation avec Dieu? Ça m'intrigue. C'est quoi ça une relation avec Dieu que je vois pas? Et je vois des gens qui ont l'air d'avoir une vie transformée, des choses qui sont passées des ténèbres à la lumière. Et si ce matin, ce que je suis en train de vous dire vous parle, et que vous dites, moi aussi j'aimerais ça faire un pas, j'aimerais ça avoir une relation avec Dieu. Je comprends pas tout, mais j'aimerais faire ce pas. Alors que tous les yeux sont fermés, je te demanderai pas de venir en avant. Mais si c'est ton cas, j'aimerais ça prier avec toi et toute l'Église va prier également. Si c'est toi, je te demande de lever ta main juste pour me signifier que tu es là ce matin et que je vais pouvoir prier pour toi. Quelqu'un qui lève sa main, amen, je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vois votre main à l'avant. Vous pouvez la descendre. Je vois votre main. Il y a quelque chose de divin lorsqu'on s'approche de lui. Lorsqu'on débute, je vois votre main à l'arrière. Vous pouvez la descendre, amen. Amen. Je vois votre main. Amen. Je vois votre main. Amen. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Et si même vous n'avez pas levé la main, lever la main, ce n'est pas un acte magique. C'est ce qui se passe dans le cœur. C'est l'idée de se confier en Dieu. Et si c'est votre prière, j'invite à prier avec moi ce matin. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es présent ici ce matin. Je reconnais que tu es présent autour de moi. Mais ce matin, je désire avoir cette relation avec toi. Et j'ai entendu tous ces témoignages de cette relation qui transforme la vie. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Je veux abandonner mes transgressions. Je veux abandonner ces choses qui ne me comblent pas. Mais je veux marcher à ta lumière. Alors, Seigneur, je te confie ma vie. Je te confie mon cœur. Je crois que à la croix, tu es venu pour me faire la plus grande démonstration d'amour que l'univers n'a jamais vue et ne reverra jamais. Seigneur, permets-moi de vivre dans une nouveauté de vie. Et qu'alors que je vais prier, alors que je vais m'adresser avec toi, tu vas répondre, tu vas être là. Seigneur, je te fais confiance pour aujourd'hui, je te fais confiance pour demain, je te fais confiance même à l'avance pour le jour où je serai baptisé moi aussi. Prends toute la gloire, Seigneur. Je t'aime et je veux vivre cette relation avec toi. Au nom de Jésus. Amen et amen.